Bon, je vous propose qu'on redémarre. On va essayer de s'arrêter à 17h, au plus tard. Et on a un petit programme de travail relativement dense. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille. Alors, vous avez vu où on en est arrivé ce matin, à mettre à jour, à essayer de commencer à nommer, disons, à identifier, à nommer un type de contenu d'apprentissage qui, pour moi, rentre totalement dans la notion de compétence, mais qui est aussi totalement langagier et qui a tendance à être un petit peu passé sous silence dans un certain nombre de situations d'enseignement. Alors, on vous montrera des situations dans lesquelles c'est le cas, mais là, on va, comme celle de ce matin d'ailleurs, mais là, on va travailler une bonne partie de l'après-midi sur, à partir de deux situations dans lesquelles il me semble que ce n'est pas le cas, mais vous pourrez toujours dire que vous n'êtes pas d'accord et que la notion n'y est pas. Alors, simplement pour raccrocher par rapport à ce qui s'est passé ce matin, à ce qu'on a dit ce matin, j'avais projeté de vous montrer en fin de matinée, mais j'étais dépassé par le temps, j'avais projeté de vous montrer un ou deux extraits de cette classe. Et puis, j'ai aussi, dans le tour de table, omis de vous demander quelles étaient les modifications que vous aviez envisagées. Donc, si vous voulez bien, on va faire un petit échange informel, comme ça, de modifications possibles. Et puis, je vous montrerai comment le problème a été traité. En fait, c'est une classe dans laquelle il était prévu, avec l'enseignante que je viens de tourner, on devait travailler sur les questions d'interaction orale. Mais moi, je n'impose pas les choses à faire, évidemment. Je vais voir. Et elle m'a envoyé cette fiche d'activité qui, c'est vrai, m'a un petit peu travaillé parce que je me demandais ce que j'allais avoir à filmer, quoi. Donc, j'ai proposé une modification. Vous verrez, vous avez certainement d'excellentes idées de modification que j'aurais pu avoir aussi. Mais vous verrez ce que cette modification a donné et ce qu'elle n'a pas pu donner aussi. Alors, vos modifications, pour commencer, vous aviez pensé à des choses peut-être dans chaque groupe sur ce qui pouvait être changé à cette situation de travail. Alors, vous avez déjà dit pas mal de choses sur ce qu'il n'y avait pas, mais à la limite, on peut, voilà, il suffit d'inverser presque et on peut se dire qu'est-ce qu'il devrait y avoir. Hein. Alors, on va le faire sans faire de tour de table formel, plus sous la forme d'un brainstorming et sans trop discuter. Hein. Voilà, un échange d'idées sans rebondir les uns sur les autres. Donc, qu'est-ce que vous aviez évoqué ce matin comme modification possible? Alors, ça serait intéressant qu'on ait une idée de critères autres. Qu'est-ce qui est écrit, rappelle-moi, sur la fiche pour ce genre de phrase là? Comment c'est formulé? Voilà, donc là, on formule directement les actes de langage, en fait. Hein. Et au lieu de les formuler, on va donner la consigne de manière plus large. Et celle qui serait dans une certaine cohérence que les gamins connaissent, comme compétence générale. C'est-à-dire, la compétence générale, c'est ça, complètement. C'est-à-dire, ils savent comment se déroule une rencontre entre gamins du même âge. Ils l'ont vécu. Donc, pourquoi ne l'exploite-t-on pas? Hein? Donc, ça vaut le coup de donner quelque chose de plus général qui va inclure les éléments, les mêmes que ceux qui sont là. Donc là, on n'est pas en situation... Voilà, on n'est pas en situation, on travaille sur l'enchaînement logique des répliques. À telle question, telle réplique, c'est ça? D'accord. Et à ce moment-là, tu mises sur la rapidité. Et pour pouvoir s'adapter, il faut forcément qu'il y ait une différence entre les situations possibles. Un gamin prétentieux, un autre timide, un autre... D'accord. L'idée de modulabilité, ressort quand même assez souvent, hein. Voilà, c'est ça, hein. C'est-à-dire que on a une sorte de jeu de Lego, en quelque sorte. Et puis, la vraie compétence, c'est dans l'agencement. ce qui revient un peu à la critique de base faite ce matin, c'est-à-dire que c'est un dialogue qui est sur des rails et qui fonctionne de manière unilatérale. Bon, alors écoutez, il y a plein de choses intéressantes évidemment. Voilà ce qui s'est passé. Et puis ça va peut-être faire surgir une autre dimension des compétences. Voilà. Alors, ça c'est le premier des premiers jeux. Donc, je vous dis rien. Vous allez voir si ça correspond à vos attentes par rapport à votre analyse de l'activité. Et on verra sur comment ça s'est passé réellement après. Voilà. Donc considérez pour l'instant que c'est la suite du papier que vous avez eu, le résultat que ça a donné.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parler à voix basse, tu viens de le dire et tu l'as pas fait. Comment tu peux faire pour faire parler à voix basse? Avec le silence, ils entendent.
Je reprends au début.
Ils entendent.
Hello, what's your name? Hello, I'm Papa. How are you? I'm 12. Where are you from? I'm French, from Lindavo. Have you got a place? Yes, I have one cat. Have you got brother and sister? Yes, I have one brother.
Ok, thank you. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui allait moins bien? Quelle est la situation? Sarah.
Déjà, il a oublié de la tomate.
La question?
Non, on l'a dit.
Ça a été dit?
Il a dit.
Ouais. Julia.
Quoi?
Qu'est-ce qui était bien dans ce qu'ils ont fait?
Ils ont parlé fort. Enfin, je sais pas, j'ai entendu.
C'était limite assez fort. Oui. Et est-ce qu'ils ont joué leur rôle?
Ils n'ont pas trop bougé.
Ils n'ont pas trop bougé. La situation, là. Attendez, hein. Qu'est-ce que vous avez, à votre avis, là, qu'est-ce que vous avez compris? Maud,
en fait, on n'a pas trop compris parce qu'ils se regardaient et on veut dire quoi? Ils sont assis sur une chaise.
Voilà.
Donc, votre situation, on ne va pas la dire tout de suite, vous allez refaire. Il faut que ce soit, hein, je vais vous montrer. Vous êtes relisé là. C'est le papa ou ça? Vous êtes assis normal. Hein. Je vous laisse faire. Oui.
Donc, vous avez compris la petite modif qui a été introduite. Hein, c'est que, bon, devant la chose quand même un petit peu rigide, on s'est téléphoné, puis on a introduit une petite variante juste avant le début du cours, quoi. Donc, les gamins tiraient au sort un contexte. Et ils avaient à le mettre en scène. Alors, au début, vous voyez que les gamins le remarquent, les spectateurs le remarquent. Le contexte, on est bien en peine de le deviner, n'est-ce pas? Alors, ce groupe de gamins va donc le rejouer, mais je vous passe le deuxième jeu, où ils vont un petit peu améliorer les choses. Ben, vous avez vu déjà qu'ils ont tourné leur chaise. Alors, on va aller juste à la fin du jeu pour voir si les spectateurs ont deviné, ont compris le contexte dans lequel se trouvaient les deux acteurs.
Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Maud,
on dirait qu'ils sont assis sur un banc.
Pas loin.
Ils regardent un film.
On aurait dit, mais c'est pas ça.
Oui, ils sont dans le car, dans le bus.
On aurait dit qu'ils étaient dans le bus. En fait, les garçons, vous êtes, ils vont expliquer.
Bah, en fait, on était en classe et par exemple, lui, c'est un nouveau camarade, tu es à côté de lui pour la première fois. Et
Voilà, donc qu'est-ce qu'il aurait fallu?
Vous entendez ce que propose un gamin? Hein? Il faut parler à voix basse. Tu parles pas à voix haute quand tu es en train de bavarder avec ton camarade. Donc tout de suite, dès qu'on fait rentrer cette logique de cohérence avec la situation, on voit qu'ils sont en plein dedans. ils réagissent de manière effectivement tout à fait cohérente. Ils vont rechercher des cohérences ailleurs, enfin dans leur expérience, hein, ce qu'on disait tout à l'heure.
Faire parler à Romain, tu viens de le dire et tu l'as pas fait. Comment tu...
Alors, entre parenthèses, c'est contradictoire, parler à voix basse avec le critère d'évaluation qui est de parler à voix haute, hein. Mine de rien. Comment on gère la contradiction?
Tu peux faire parler à voix basse. Tu fais... Hein? Avec le silence, ils sont... Hey, what's your name? My name is... Ils entendent.
Donc, comment parler à voix basse tout en se faisant entendre des copains? Ils ont des stratégies, évidemment.
Mais aussi, quoi d'autre? Vous êtes en classe? Est-ce qu'en classe, vous êtes comme ça? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, Maud?
De prendre un livre et faire de sortir de quelque part.
Voilà, sortir leurs affaires, par exemple. Non? Et vous regardez un minimum quand vous vous parlez, non? Mais bon, c'est bien d'avoir été volontaire. Un deuxième groupe...
Et quand, juste une autre chose,
oui.
lorsque vous essayez de parler à votre voisin, et que vous ne voulez pas que votre professeur vous entende. Eh ben voilà. C'est exactement. Vas-y, fais-le. Fais-le.
Moi, je peux le faire.
Voilà, on se penche un petit peu quand même vers celui qui est à côté.
Madame Viala, elle le sait, puis personne ne pourra y faire.
Oui, mais comme ça, on va se trahir, parce que Madame Viala, elle veut le savoir. Ah, donc vous voulez pas montrer comment vous faites d'habitude parce que vous croyez qu'elle a pas remarqué.
Voilà, c'est
hein? Bon, vous voyez, il y a une sorte de prise de conscience qui s'opère dans ce petit échange et qui vise à connecter la langue avec le contexte que vous appeliez de vos voeux à juste titre ce matin. Alors je vous montre... Sur une autre vidéo, un groupe, pour voir ce que ça finit par donner, parce que ça va très très vite. En fait, quand ils ont compris le principe, ça devient assez vite exponentiel, c'est-à-dire ils deviennent très créatifs. Alors, voyons, excusez-moi. C'est... Bon, je vous passe les préparatifs de mise en scène. J'accélère un peu parce qu'ils durent un peu longtemps. Voilà.
Yes, I two cats.
Hello.
Have you got brothers and sisters?
Yes, I'm one sister.
Tu as la faim, là?
Il a fait une manche.
Alors, Dylan,
ils sont à la prochaine.
Et voilà, c'est la connaissance d'une nouvelle élève. Très bien. Ah, hein, la situation là, vous avez tout de suite compris.
Elle est là, voilà.
Pardon. Elle n'était pas notée. Maintenant, ça commence. Donc, qui veut...
Moi, je me pose question quand j'entends la phase... Parce que la gamine, alors j'aurais dû transcrire, à un moment donné, elle dit « I'm a brother ». Hein? C'est-à-dire, là... Il y a un changement d'optique à 180 degrés, un changement de focalisation de l'attention à 180 degrés, C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de la langue, on ne s'occupe plus que du message, non, du message, même pas. En réalité, vous avez vu que les gamins lèvent la main avant même que le dialogue ait commencé, c'est-à-dire qu'ils ont compris le contexte et c'est fini. Ils n'écoutent plus rien. Chose qui ne se passerait pas avec l'idée de module dans lequel il faudrait choisir, avec l'idée de bandelette, parce qu'aucune des conversations ne serait identique à l'autre. Là, il n'y a rien à comprendre, puisque, à part le nom du gamin, mais comme quelqu'un l'a dit très, très clairement ce matin, ils se connaissent tous, on est au mois de décembre, je crois. Donc, ils donnent leur vrai nom, en plus. Donc, il n'y a plus aucun enjeu dans la langue. Il n'y a plus que l'enjeu du contexte. Donc, c'est bizarre, parce qu'on passe d'un extrême où, clairement, il n'y a que une sorte de préoccupation linguistique qui vaut au début, à un autre extrême dans lequel il n'y a plus que la position, la situation contextuelle qui compte, bien entendu. Voilà. C'est-à-dire que dans ce qu'il était possible de changer pendant le week-end, il n'était pas question de changer quoi que ce soit au dialogue, puisque c'est ce qu'on leur avait demandé d'apprendre. Donc là, on s'est trouvé corseté par une consigne de départ. Ce qui veut dire que, on en parlait avec vous là juste avant de rentrer, les choses peuvent se jouer à la marge pendant le cours, mais en fait tout est joué à l'avance, ou quasiment tout, 90% de la situation est jouée à l'avance, puisque c'est la tâche que les gamins ont eu à accomplir. Donc là, on est contraint par ce qui a été dit, et il faudrait revenir bien en amont pour pouvoir changer la logique de la situation. On ne peut changer que les choses à ce stade-là qui sont changeables. Hein? Exactement. Si on demande aux gamins de réagir sur le contexte, c'est un petit information gap. Mais il faudrait que l'information gap porte aussi sur ce qu'ils se disent et pas simplement sur l'endroit où ils se trouvent ou qui ils sont. Donc, vous voyez, cette phrase grise que vous avez en bandelette et qui est si stodgy, hein, si étouffe chrétien, puisque elle commence la ligne 2 et elle va jusqu'à quasiment la dernière, l'avant-dernière ligne. Hein, ils mettent en œuvre les compétences, etc., etc. Et puis vous avez un gros pavé qui est insécable. On est obligé d'aller au bout de la phrase. Eh bien, c'est significatif de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a affaire à un ensemble. Hein, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre des compétences, c'était bien dit par les gens qui parlaient de combinaison ce matin, ou de coordination, quelque chose comme ça. Ce qui est de l'ordre des compétences, c'est ce qui est de l'ordre de la coordination. Il n'y a pas une compétence linguistique, puis une compétence pragmatique, et puis une compétence ceci, une compétence machin. Il y a un tout. Et c'est ce tout, dans sa cohérence, qui fait qu'il y a ou pas compétence. Ça s'exprime à travers cette phrase qui est difficile à lire dans sa cohérence globale, mais qui manifeste par l'absence de ponctuation ou de pause réelle que tout se tient, en fait. Tout se tient. Donc ici, on voit bien que, faute d'avoir ce système-là dans sa globalité avec les éléments et comment ils s'articulent les uns aux autres, eh bien, aussi bien les élèves que l'enseignante jouent au balancier, quoi. Hein, tantôt elles sont d'un côté, tantôt elles sont de l'autre. Voilà. Alors, je comptais vous montrer un autre exemple dans une classe de 3e, mais vu ce qu'on a dit là-dessus sur cette activité, je pense que je peux facilement zapper cet exemple qui est un peu du même ordre, mais simplement l'avantage c'est qu'on était à un stade au-dessus dans l'apprentissage, et je vais vous proposer de passer directement aux derniers extraits que je comptais utiliser et dans lesquels, selon moi, on a une prise en compte plus nette de cet ensemble d'éléments dans lequel figure ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire le genre. Alors ici, on voit bien que sur le genre, on ne peut rien faire, hein, dans l'atelier 6e. Là. Voilà, il n'a pas été conçu au départ, donc à ce stade-là dans le cours, on ne va pas changer. Mais donc, je vais vous proposer de voir un petit peu comment les choses fonctionnent dans des situations plus complexes, puisqu'elles s'adressent aussi à des élèves plus âgés. Alors, j'ai deux vidéos à vous montrer pour lesquelles il faut qu'on se sépare en deux groupes, et une vidéo en espagnol, une vidéo en anglais. La logique qui voudrait que les gens qui font de l'espagnol aillent en espagnol et en anglais aillent en anglais n'est pas justifiée, mais il faut quand même que vous compreniez un peu la langue, quoi, parce que sinon là vous allez avoir un vrai problème. Alors en général, tous les hispanistes ont fait de l'anglais, l'inverse non. Bon, ça va, je sais pas, le dernier groupe où j'ai été, ils en avaient tous fait. Donc alors c'est pas quand même d'un niveau, enfin c'est d'un niveau correct. Comment on va faire? Levez la main ceux qui sont vraiment monolingues espagnols. Bon, vous êtes forcément dans le groupe d'espagnol, hein, parce qu'en anglais, ça sera trop difficile. Alors, les autres, il faudrait équilibrer. Est-ce qu'il y a des anglicistes qui sont relativement à l'aise en espagnol? À l'aise, c'est-à-dire un niveau fin d'études secondaires, hein. Des anglicistes, des profs d'anglais ou des autres que profs, qui sont à l'aise suffisamment en espagnol pour suivre des élèves de terminale. Bon, alors on a combien d'hispanistes au total? Parce que bon, bah écoutez, je suis désolé, mais on va arriver à ce que je voulais pas, c'est-à-dire deux groupes de langues homogènes. Bon, et en anglais, que je vois la proportion, anglais prof ou inspecteur ou autre d'anglais. Il y a italien, oui. Bon, alors donc, il peut y avoir des hispanistes qui se déportent, qui se déplacent dans le groupe d'anglais. Le tout, c'est d'arriver à peu près à un équilibre entre les deux groupes. Alors, je vous explique ce qui va se passer. On rééquilibrera en cas de besoin les groupes. Je vous explique ce qui va se passer. Donc, vous avez deux extraits, chacun dans la langue à voir. On va occuper la salle 3, je crois, juste à côté. Je vais vous mettre la vidéo et vous allez regarder l'extrait et essayer de déterminer le genre. Premier point. Mais ça, je pense que ça devrait être assez rapide. Ce qui le sera peut-être un peu moins, c'est de déterminer en second quelles sont les compétences que manifestent les élèves dans ces deux activités. Donc, premièrement, le genre, au sens où on en a parlé ce matin, c'est-à-dire un type de texte qui peut être aussi qui peut aller de pair avec un type de situation sociale aussi, hein. Donc, le genre. Et deuxièmement, quelles sont les compétences que les élèves manifestent à l'occasion de cette activité. Ou, on pourrait ajouter, ou qu'ils ne manifestent pas, hein, qu'ils pourraient, mais qu'ils n'arrivent pas à manifester. Voilà. Alors, le groupe d'Espagnol, je vais passer à côté, vous branchez la vidéo. Et le groupe d'anglais, vous allez rester ici. Et je vous apporterai un ou deux documents au fur et à mesure pour aider à préciser les choses.
So, we'll speak about the act, the caretaker. There are critics, there are the director, there are some actors. And we'll first begin with the director.
There is the author.
Yes. Let's begin with the director. So, which universe did you want to create with the setting?
I think I wanted to create a weird atmosphere and improve the mystery side in my play.
Yes, of course.
Yeah.
Mm-hmm.
Oui, attendez, je vais...
So, Mr. Aaron Pinter,
alors, je vous explique...
Thank you so much.
Je vous explique la situation, parce que je ne vais pas la mettre vraiment au début. Je sélectionnais un passage pour raccourcir. Donc, il s'agit d'un... Alors, j'ai failli faire un lapsus. Voilà, enfin, les élèves sont réunis autour d'une table. J'étais prêt, là. Les élèves sont réunis autour d'une table pour parler d'une pièce de Harold Pinter qui s'appelle The Caretaker. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous donne le genre. Alors, j'arrive, hein. Oh, je vais me mettre en route russe.
Was this song a difficult character to play?
Yes, because we can say Ashton is a man who has two different responsibilities. First, Ashton is a man.
Okay, thank you. So, the first actors, first Ashton. Yes. Was Aston a difficult character to play?
Yes, because we can say Ashton is a man who has two different responsibilities. First, Ashton is a man very generous, sociable, and he's very gentle and patient towards Davis. And but otherwise, at the end of Act 2, we learn Ashton is a crazy man, and it was very difficult to play his man because two personalities and crazy and sociable.
A question for the director of Mitch. Where is Mitch?
Me, here.
Does Mitch's character correspond to you?
Hell no. You know, he's quite mysterious. He looks a bit sad. He's mad. We call him Nuts.
Nuts.
Yeah. Like she said. So he's constantly changes. Sometimes he's calm, sometimes he's angry. We don't even know what he thinks. And he's distant to try to control the whole piece, and you know, it's a real comedian work because it's really not like me. So I think no, I don't have something in common with him.
Thank you so much.
De nada.
So we have the critique from GMA, a French magazine.
So fashionable, so successful. GMA for us.
Thank you so much. What did you think of the setting and the costumes?
Well, I'm Jennifer, a journalist of the GMA magazine, Culture Page. And I saw the play, and in spite of the only set in the play, there is a good utilization of the space, but I have a question for Pinter. Why do you choose only men for this play? Because it's a little bit sexist.
No. Like I said, I think when I write my play, I'm writing for boys, for men. I don't imagine my play with women. I don't think it's a play for women. It's a play. It's not the objective. When I write on the play, I decided to take men like personage. Because it was good with the atmosphere, and the women couldn't be good for my play. Yeah. But it's not the sexism.
Okay. But Jennifer is right to ask this question because it could be a bit sexist.
But yes, Jennifer, but the women bring romantic in the
play. No, you don't understand the meaning of my play. No. It's not possible.
I understand the play. What?
All right.
You are a young woman. You are a young woman and you are feminist. It's not you are feminist, it's all. So you don't understand the name. It's all.
Yes,
but don't speak with like this.
Okay. I don't understand.
Yes, if you don't accept my critique,
it's not that. But you know, I am 20. I'm old.
It's impossible to
speak. You don't understand life.
I'm maturing, and I totally agree with that. It's quite sexist, and you know, we understand each other.
Please stop here. Thank you,
Mr. Peter. Thank you, Jenny.
I'm a French journalist.
French?
Yeah, French. What?
All right.
Yes?
That's right.
Thanks,
you.
A question for the question for French magazine, news magazine for Sport.
Yes.
We wrote a quite interesting article about violence in movies. How violence is shown?
There are two violence. First, psychological violence.
And physical violence.
with electric shock treatment of Aston.
Yes.
Violence of society, of life. When we see that Davis is a victim of fighting.
Okay,
you understand.
Is surprised when Aslan invites him in his home.
But do we have a question?
You want to have some everything?
Yes, Gina, a question.
Yes.
Yes. Hello, I'm Mandy, a journalist with Jennifer.
Hello, Mandy.
And I think the play is very, very sad. It's a work of a very old man. And I think you must to give a feel of new in this play, peps. The set and the costume are very old and I know this man. It's the next porno producer.
Yes, I know.
I think if you want a play with peps,
you don't understand.
You must secretly.
It's not interesting.
You don't understand the meaning of my
life. Yes, it's very interesting for the children.
But it's not for children.
It's not for children.
The teenagers. It's
for people who could have a philosophy.
Yes, but
opinion.
Please. I think the director, I don't know which is the name.
Respect,
please. Mr. Pinter,
you just think your play is deep and with the weird weird
message.
I'm after.
Yes.
Stop. Please, I don't
mention the gentleman.
You blow. You get to disturb me. The words. The words in English. I don't understand you.
Bon. Alors, donc, on revient sur cette notion de compétence, qui est notre sujet, à partir de ce que vous avez dit dans les quatre groupes, et on va essayer, je ne sais pas si on va y arriver, on va essayer de faire une synthèse, de se mettre d'accord sur une formulation commune, on va essayer, et puis on passera ensuite, pour terminer l'après-midi, à un travail à partir de séquences, pour voir si ces séquences sont de nature à aider à créer les conditions de construction de compétences comme vous les aurez définies, mais peut-être que les uns et les autres, on aura des points de divergence. Alors, qui peut commencer rapport d'un des groupes?
Bien. Donc dans notre groupe, nous avons essayé de nous mettre d'accord sur les compétences communes aux deux vidéos qui ont été vues en espagnol et en anglais, donc comme tous les autres d'ailleurs. Et nous nous sommes arrêtés sur un certain nombre de compétences que mes collègues de mon groupe vont reconnaître parce que c'était exactement les mêmes. Donc en gros, être capable d'utiliser les codes soit du débat radiophonique, soit du procès. Donc respect des tours de parole, écoute de l'intervenant, ne pas lire de notes pour parler en public. Après, jouer son rôle, enfin le rôle qui leur a été attribué. Être capable de gérer le débat en ce qui concerne l'animateur pour les codes du débat radiophonique. La deuxième catégorie qui serait plus proche des compétences dites pragmatiques, être capable de donner son opinion, argumenter, relancer, répondre et agir, donner son accord et son désaccord, à la fois fournir du contenu et donner une cohérence au contenu. Et surtout être capable de rester dans le genre débat. Et enfin, les compétences liées aux compétences linguistiques, être capable de mobiliser le vocabulaire adéquat, alors soit celui de la justice dans le cadre du procès, soit celui du débat littéraire dans le cadre du débat littéraire radiophonique. De respecter, que ce soit en espagnol ou en anglais, la mélodie des phrases, hein, qu'elles soient adéquates. On a tous noté qu'il y avait, quand les élèves entraient dans une phase émotive, une perte des schémas phonologiques, et de produire un message qui soit compréhensible et recevable. Alors, on n'a pas trouvé de différence entre les deux genres. En tout cas, bon, ça ne nous est pas apparu. Et on a essayé de se mettre d'accord sur donc ce que vous nous aviez demandé, à savoir qu'est-ce qu'on enseigne en langue, comment est-ce qu'on enseigne maintenant les langues. Alors bon, c'est notre façon de voir. Hein. On a pensé que l'enseignant en langue actuellement était au-delà du purement linguistique, il cessait d'être un but en soi, et que au contraire le linguistique était totalement au service de l'acte, enfin ça fait très cadre européen, mais de l'acte social, c'est-à-dire de l'agir, et dans ce cas du genre, à savoir le procès et le débat littéraire radiophonique. Voilà.
Alors, si vraiment ce que vous avez à dire est identique, vous ne le redites pas, mais je me méfie de cette consigne-là, parce que souvent on se dit, oui, ils l'ont déjà dit, en réalité on dit quelque chose d'autre. Donc, bon, on ne redit pas exactement, mais si vous avez l'impression que vous apportez du nouveau, vous l'apportez, même si, au bout du compte, on juge que c'est la même chose. C'est pas grave.
Ouais.
Allez, on y va, c'est toi, Muriel?
C'est pas toi. Bah, j'y vais, alors. C'est la binôme.
Donc, nous, on s'est beaucoup, on a réfléchi à notre spécificité par rapport aux autres disciplines, notre façon dont on entraîne, nous, dans notre discipline. Et ben, le débat, ben, ça a été le linguistique d'abord, donc c'est ce que vous avez dit, hein, le linguistique au service de l'acte social, mais également tout ce qui tourne autour du culturel. Voilà, donc pour faire très court, hein, c'est indissociable. Quand on enseigne une langue, on enseigne sa culture, et il faut qu'il l'identifie, hein, comme tel. Voilà. Et on s'est dit, on est parti de ce que les autres, de ce que nous on faisait pas, que les autres faisaient en science. Enfin bon, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous différencie? Ben c'est ça. Parce qu'on fait, on peut faire de l'histoire en langue, on peut faire une approche scientifique en langue, des mathématiques en langue. Donc qu'est-ce qui nous différencie? Ben c'est l'aspect culturel et linguistique. Voilà.
Par rapport à la première partie, on était bien d'accord, sauf que, moi je suis un peu, au niveau des termes, c'est vrai que ce qui a été dit par le premier groupe, donc la liste, moi je le vois plus comme une série de capacités et que la mobilisation et la combinaison de tout ça fait la compétence. Enfin moi c'est comme ça que je vois, que je voyais les choses, mais bon, je peux me tromper. Alors sinon, donc par rapport à ce qui nous différenciait, puisque bon, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté, c'est vrai qu'en fait, on a remarqué dans les deux situations, hein, d'après ce qu'on a entendu, c'est qu'à un certain moment, l'émotionnel, on va dire, l'investissement dans le rôle des élèves fait que on va beaucoup plus facilement mobiliser des compétences qui seront plutôt du domaine pragmatique, et puis on va progressivement laisser tomber la langue, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal, enfin l'élève a du mal à focaliser et à la fois sur le rôle qu'il a interprété et sur tout ce qui est hors linguistique, et donc la langue devient incorrecte. Carrément incorrect, on n'y pense plus, et puis donc on essaye de se faire comprendre, puisqu'on n'a pas besoin de parler effectivement pour se faire comprendre quand on a un minimum de lexique, la langue correctement, et ben on va aligner un certain nombre de termes lexicaux, et puis effectivement avec le reste, avec les gestes, avec toutes ces capacités pragmatiques, et ben on va se faire comprendre. Alors c'est ça qui nous a peut-être amené à nous dire que finalement ce qui nous différenciait des autres matières, c'est que on doit travailler la langue. On est prof de langue. Alors effectivement la langue c'est un outil dont on se sert dans des situations de communication, mais qu'à certains moments il va falloir s'arrêter sur cette langue, l'observer, voir comment elle fonctionne pour se l'approprier et puis bien pouvoir la réinvestir dans des situations de communication.
Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je réagis, en fait. Hein. Donc, on avait fait les mêmes remarques que le groupe 1 en ce qui concerne l'émotivité, c'est-à-dire que plus il y a d'émotivité, plus la langue s'appauvrit. Ce qui, d'ailleurs, rejoint... il y a quelques années auparavant, quand on enseignait la langue pour la langue, les élèves, quand ils se retrouvaient dans des vraies situations, ils étaient incapables de parler anglais, en l'occurrence, pour ce que je connais. Ou même quand un assistant venait, les élèves ne savaient plus du tout articuler trois mots d'anglais cohérents, par exemple. En ce qui concerne, quand vous disiez ce qui différencie l'enseignement des langues des autres enseignements, c'est la culture. Mais je crois que, oui, c'est vrai, bien sûr que la culture est inhérente à la langue, hein, bien entendu, c'est pas ce que je récuse, mais en français, en histoire-géographie, d'autres matières qui véhiculent aussi des aspects culturels. Et en ce qui concerne aussi, quand vous disiez, on peut enseigner les maths, les sciences dans une autre langue, oui, certes, mais c'est toujours dans un but de langue, parce que l'enseignement de DNL, c'est forcément pour renforcer une langue qu'on fait ça. Donc il y a toujours... je crois qu'il n'y a pas que ça comme objectif, il y a la matière derrière, mais c'est aussi pour renforcer la langue. Donc je crois qu'effectivement, ce qui différencie le plus l'enseignement d'une langue étrangère des autres enseignements, c'est une langue étrangère. Il faut s'approprier une langue, effectivement.
Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter par rapport...
à tout ce qui a été dit. Je dirais qu'on rajoute, nous, profs de langue, un risque par rapport à tout ce qui est fait dans d'autres disciplines. Un risque supplémentaire qui est effectivement le risque de la langue. D'où l'importance de bien travailler ce risque supplémentaire. Et que c'est là que se situe notre travail, à nous, profs de langue vivante.
On peut peut-être aussi dire que par rapport aux autres matières, on démarre avec un blocage pour certains enfants quand même, puisqu'ils démarrent sur une autre langue qu'ils ne connaissent pas. Ils sont obligés de communiquer dans une autre langue, contrairement aux autres matières. Et qu'on est obligé aussi d'accepter l'erreur, parce que quand on les entend parler, ben, on va les laisser parler. Quand on regarde les deux vidéos, là, il y a des erreurs de langue qui sont effectuées, mais on n'intervient pas. Le professeur est totalement absent. Enfin, il est présent dans le travail en amont, mais il n'est pas là au moment de la communication. Il essaye de s'effacer. Et c'est une prise de risque pour les élèves, c'est une prise de risque pour le professeur. Et ça rend quand même les choses assez différentes.
Il me semble que entre le film sur Maradentro et puis sur la pièce de théâtre, il y avait une différence, c'était les souffleurs. Et que du coup, les souffleurs mettaient le doigt sur la vigilance, justement, par rapport aux erreurs. Voilà, c'était la seule chose que je voulais rajouter.
Alors,
ça y est.
Oui, l'étayage. Loïc dit c'est l'étayage.
Alors pour compléter un petit peu ce qu'a dit Guylaine, nous dans notre groupe on a parlé aussi un peu de construction de la bifocalisation, donc qui fait écho à la vigilance. Cette bifocalisation qui est extrêmement difficile, notamment dans les activités d'interaction. Alors, ce qui fait qu'elle est difficile, c'est qu'il faut se concentrer sur beaucoup de choses à la fois, et que c'est comme quand on apprend à conduire, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à un tas de choses en même temps pour que ça fonctionne, et qu'au début, c'est pas facile, quoi. Donc, il faut leur apprendre, justement, à essayer de faire attention à tout. Voilà. Je prends souvent l'exemple, d'ailleurs, de la conduite, parce qu'alors, c'était une catastrophe pour moi.
Donc, je disais qu'on s'est tous trouvés confrontés à ces fameuses grilles d'évaluation d'interaction orale où on a de multiples entrées. Et quand on commence à... du coup, on doit évaluer énormément à ce niveau-là de compétences. Et c'est ce qui est très complexe pour nous et pour eux aussi.
Vous avez le micro, allez-y.
Et puis, il y a aussi le fait qu'ils pensent en français. Et qu'il faut réfléchir pour pouvoir construire un petit peu les choses et passer à d'autres compétences, c'est quand même compliqué, c'est un peu comme conduire, il faut réfléchir à ce qu'on va faire avant de pouvoir, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir tourner au bon endroit. Eux, il faut qu'ils aient réfléchi avant en français pour pouvoir savoir de quoi ils vont avoir besoin pour le sortir. Donc après, travailler en interaction pour que ce soit autonome, c'est...
Vous pensez que dans ce que vous avez
d'où la nécessité de procéduralisation de tout ça, quoi.
Est-ce qu'ils pensent français dans
les petits encore, hein, mais c'est à nous, on leur apprend à passer à ça, mais c'est pas
évidemment. Mais bon, j'ai pas l'impression que le processus soit je pense en français et puis je mets dans la langue. C'est loin d'être ça. Hein. Ils sont directement dans la langue quand même. Hein. Ils ont pas le temps. Ils ont matériellement pas le temps de faire un double travail cognitif, c'est absolument impossible. Ils vont l'avoir s'ils ont le temps, c'est, par exemple à l'écrit, oui, ils vont être tentés, mais là, non, ils sont pris dans une... Justement, c'est ça qui fait l'intérêt des situations d'interaction orale. Ah, absolument, c'est-à-dire c'est différent. C'est-à-dire, faisons la différence entre ils pensent et les processus qui ont lieu. Penser, ça veut dire je m'arrête, je pense un temps en français, puis je pense un temps en espagnol ou en anglais ou en autre chose. Et ça, je n'y crois pas une seconde pour les deux scènes que vous avez vues. Par contre, qu'il y ait des fonctionnements cognitifs qui, impensés ou informulés, se produisent et donnent des formes qui sont calqués ou des emprunts ou à la langue d'origine ou à une autre langue d'ailleurs, hein, puisque ça peut aussi jouer entre les langues 2 et langue 3. Ça, c'est indéniable. Mais on peut absolument pas dire qu'ils pensent en français. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'ils font de la traduction. C'est pas le cas. Il y a des processus qui se passent, oui, ça c'est clair. Et la difficulté, c'est que justement, ces processus sont impensés. ils sont, c'est, on est, bon, vous devez, pour au moins un certain nombre d'entre vous, avoir entendu parler de ce qu'on appelle le domaine de l'épilinguistique, qui est un concept d'origine culiolienne, et qui tente de mettre un terme, un mot, sur ces processus non formulés, mais qui affleurent à la surface à travers un certain nombre d'erreurs. Alors, le contrôle de ces processus est effectivement difficile, puisqu'il faut les faire émerger. S'ils sont impensés, on ne peut pas agir dessus. Donc, il faut les faire émerger pour avoir une quelconque chance d'agir dessus. Alors, moi, je serais tenté de réagir à plusieurs choses. La première, c'est ce qui a été dit par pas mal d'entre vous. Par exemple, quelqu'un qui parle des multiples entrées. C'est compliqué, je laisse de côté évaluer pour l'instant, hein, c'est compliqué pour eux, ces multiples entrées. D'abord, avant de penser à notre difficulté, ces multiples entrées sont compliquées à gérer pour eux. Les questions de bifocalisation. Bifocalisation, c'est faire attention à deux choses à la fois. Et vous savez que c'est difficile. Essayez de, je sais pas moi, de bouger votre bras gauche en cercle pendant que vous bougez le bras droit verticalement et vous m'en direz des nouvelles. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on fait attention à deux choses différentes à la fois, et on a tous partagé ou vécu des expériences dans lesquelles, aussi bien au niveau des activités physiques qu'au niveau de la conduite, etc., où on se rend compte que le processus, c'est-à-dire ce qu'il y a de spécifique dans la notion de compétence, c'est justement cette phase de synthèse, de coordination, qui fait que l'ensemble de ces capacités que vous avez nommées, dont vous avez fait la liste, doit se trouver mobilisé simultanément, dans le même temps ou dans un temps très coordonné. Et ce qu'il y a de spécifique dans les compétences, c'est que justement, on ne peut plus, en toute logique, en toute rigueur, continuer à parler de compétences linguistiques, plus compétences culturelles, plus compétences pragmatiques, plus compétences phonologiques, plus ceci et cela. C'est un tout, ou alors ce n'est pas des compétences. C'est-à-dire, ce qui fait la spécificité des compétences, c'est le fait que c'est ce processus particulier qui se passe, qui se déroule, lorsque on est confronté à une situation complexe qui nécessite la mobilisation de plusieurs, d'un grand nombre de ressources. Ce processus, vous en touchez du doigt, vous le touchez du doigt, ou vous le touchez de l'oreille, ou de l'œil, quand vous voyez les élèves se décoordonner lorsqu'ils s'investissent dans l'activité. C'est pas une erreur de leur part, c'est le point de passage obligé pour qu'ils apprennent. Il ne faut pas les corriger, il ne faut pas avoir peur de ce moment-là. S'ils ne le vivent pas, ils ne le surmonteront jamais. Donc, c'est la provocation, l'organisation, la matérialisation, la mise en œuvre de ces situations complexes qui font que les élèves vont développer cette capacité de coordination des compétences. Coordination. Il n'y a pas de compétence isolée. Si c'est isolé, c'est autre chose qu'une compétence. C'est une ressource, c'est une connaissance. À la rigueur, c'est une capacité. C'est-à-dire, je travaille ma conjugaison du subjonctif imparfait en espagnol. Au bout de 10 minutes, je sais conjuguer le subjonctif imparfait en espagnol. Ça n'est pas une compétence. Ça ne deviendra une compétence que si, dans une situation dans laquelle le subjonctif imparfait doit être mobilisé. Ça existe, le subjonctif imparfait en espagnol ? Oui. Dans une situation, oh oui, ça, dans une situation où il doit être mobilisé, je le mobiliserai, je apprenant, mais attention, sans qu'il y ait un prof qui me dise « tu penses bien à ton subjonctif imparfait ». Parce que si le prof me l'a dit, je n'ai pas prouvé, je n'ai pas manifesté la compétence. C'est le prof qui m'a rappelé que il faut que je le mobilise de mon propre chef. Justement, c'est là le deuxième problème. C'est ce que vous appelez la langue. Alors, je suis un peu partagé par rapport à cette abstraction qu'est la langue. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est un ensemble de règles phonologiques, syntaxiques, voilà, de mots. Ok, c'est vrai, c'est tout ça. Mais j'ai l'impression que entre la situation et la langue, il y a quelque chose qui manque. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Qu'il faut un maillon. Le maillon, on l'a vu ce matin. Qu'est-ce qui manquait dans cette activité? C'était le maillon qui permettait de comprendre dans quel type de texte on était. Or, on ne pouvait pas comprendre dans quel type de texte on était, puisque c'était un interrogatoire de police, pour aller vite, hein. C'est-à-dire un texte dissymétrique qui n'avait rien à voir avec ce type, avec un quelconque genre cohérent avec cette situation. Donc, pour que les élèves parviennent à mobiliser cette langue au sens phrastique du terme, c'est-à-dire la langue au sens de ce qu'il y a entre deux points, entre la majuscule du début de phrase et le point de fin de phrase, c'est ça la langue. Au-delà de ça, on n'est plus tout à fait dans la langue, on est dans le texte. Évidemment, la langue et le texte appartiennent à un même ensemble qui est le langagier. Et il faut absolument qu'on arrive à distinguer ce qui est le langagier de ce qui est le linguistique. Tout est problème de distinction, on l'a vu ce matin, on est dans des questions de terminologie, les choses se recoupent, les choses se chevauchent, et notre gros problème, c'est d'arriver à la compétence de mon plombier ou de mon garagiste qui sait que le bruit de ma voiture, c'est pas un truc qui le produit, mais c'est le pot d'échappement ou la durite ou ce que vous voulez. Il emploie un terme qui est unique pour un objet unique de ma voiture, ou de ma tuyauterie, ou de mon corps quand je suis chez mon médecin. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes moins compétents, d'une certaine manière, que nos plombiers et que nos garagistes, dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous continuons à penser que les mots de la vie courante peuvent servir aussi pour parler de notre discipline. Et donc, on l'a bien vu avec la question du contenu de compétences ce matin, il y a du jeu, mais ce n'est pas nous qui en sommes responsables, puisque tout le monde est dans la panade pour ce qui est des compétences. Donc, mais enfin quand même, on a intérêt à rationaliser les choses. Le cadre européen est un immense progrès de ce point de vue-là. Ça permet déjà d'introduire une sacrée dose de rationalité, mais on voit bien que cette rationalité dans la terminologie est influencée par des choses qu'on disait avant. Quand on dit activité langagière ou compétence, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, ce maillon manquant, j'en reviens à ça, c'est forcément, et là je rejoins la question du culturel, c'est forcément une forme sociale et culturelle du langage. Ça n'est pas l'enseignement de la civilisation, la culture. Enfin, ça peut être ça, évidemment. Mais la culture dans la langue, la culture, la civilisation, si vous voulez, c'est un thème. La civilisation, elle a finalement, bon, je caricature un petit peu, mais elle a finalement pas d'autre statut que les SVT pour une DNL. Voilà, c'est ce dont je parle, la culture. Le système politique britannique, la guerre d'Espagne, c'est un thème, comme un autre, au même titre que l'eau. Évidemment, il est lié à la langue qu'on enseigne, mais ce n'est qu'un thème. Ce n'est pas ça la langue, ce qu'on enseigne dans la langue. Bien sûr que c'est lié de très près, plus que l'eau en soi. Enfin, c'est quand même pas ça. La véritable culture dans la langue, elle se situe au niveau du genre. Le genre, c'est des formes socioculturelles qui sont, comment dire, synthétisées, qui sont, qui se précipitent, on pourrait dire un petit peu, qui se constituent par simplement un ensemble de pratiques sociales héritées de nos parents, de nos grands-parents, enfin des siècles précédents, qui évoluent constamment. Le rap, ça n'existait pas il y a 30 ans. Maintenant, un rappeur, il a inventé un genre qui n'existait pas, ça évolue constamment, et ça a des règles et des lois et des caractéristiques, et la langue, elle se coule là-dedans. La langue, on l'a bien vu ce matin avec le petit exemple du dialogue des gamins, elle n'est pas suspendue en l'air dans la situation, elle se coule dans un moule de genre, de texte. Et donc, ce qui me semble important, c'est de se demander quel est le statut du texte par rapport à la langue d'antan, c'est-à-dire des méthodes jusque aux approches communicatives comprises. Si vous réfléchissez à ce qu'on enseignait avec la méthode directe, avec les méthodes audiovisuelles, on enseignait la correction au niveau de la phrase, du mot, du phonème, infra-phrastique si vous voulez. Approche communicative, les unités dominantes, c'était les actes de langage, c'est-à-dire ce qu'on appelait les fonctions langagières dans le temps. Niveau de l'énoncé. D'accord ? Sauf que, avec la perspective actionnelle, on définit une unité actionnelle qui est la tâche, et l'unité correspondante du point de vue du... La tâche, c'est pas du langage, c'est du non-langagier, de l'extra-langagier. Et l'unité qui correspond au niveau de la tâche, eh bien, je suis désolé, ça n'est pas la phrase. Ça n'est pas l'énoncé. C'est forcément un texte. Quand je présente une recette de cuisine, ou quand un cuisinier présente une recette de cuisine à la télévision, il accomplit une tâche, et cette tâche correspond à un texte, qui est la recette de cuisine, le genre recette de cuisine. Donc, il faut qu'on ait vraiment en tête qu'on a changé d'unité d'enseignement langagier, plus linguistique, langagier, et que cette unité, c'est devenu le texte. Ça ne veut pas dire, naturellement, que la phrase, le phonème, la syntaxe, le lexique ont perdu de leur importance. Ça veut dire simplement, et ça a été dit par un groupe, qu'ils sont mobilisés en circonstances, dans des circonstances adaptées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une cohérence entre le texte et la langue. Le système linguistique, on va dire, plutôt que la langue, hein, dans ce cas-là. Donc il faut qu'on raisonne à ces différents paliers, hein, pour se rendre compte que notre objet d'enseignement n'est plus tant cette langue conçue comme suite de phrases que l'unité de stade supérieur, de niveau hiérarchique supérieur dans le langagier, et que cette unité de niveau supérieur, c'est le texte. Il faut donc qu'on s'interroge sur comment les textes sont construits, pas simplement les mots de liaison, les connecteurs, hein, ça on a fait ça depuis toujours, les connecteurs, on est encore dans le niveau de la phrase, si vous voulez. Hein. Non, c'est en quoi ça consiste un genre ? Alors, la table ronde, par exemple, on trouve des caractéristiques, des descriptions de genre, comme ça, facilement, sur Internet, sur qu'est-ce que c'est qu'une plaidoirie. J'ai tapé hier plaidoirie, à propos du procès, je suis tombé sur des définitions des plaidoiries, etc. On trouve ça assez facilement. Hein. Il y a plein de ressources possibles, et ça sert, du coup, de manière très très précise dans l'enseignement. Donc, par exemple, ça sert... Lorsqu'on dit « ils apprennent leur rôle », dans les jeux de rôle que vous avez vus, oui, ils apprennent leur rôle, mais attention, il y a deux rôles. Harold Pinter, par exemple, il est Harold Pinter. Il a sa vie, il a un rôle social, c'est un écrivain, etc. Et puis, il est Harold Pinter, participant à cette table ronde, c'est-à-dire un autre rôle. Un participant privilégié dans cette table ronde qui a un statut particulier. Donc on va différencier, par exemple, le rôle communicatif, le rôle que Harold Pinter joue dans la table ronde, avec le rôle social, personnel, culturel qu'il joue dans la société anglaise et qui est celui d'auteur. Donc tout ça, c'est des distinctions, certes un petit peu complexes, mais qui renvoient, je pense, je terminerai là-dessus, à un nouvel objet dont on va parler maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on peut dire que un enseignant maintenant, je parle plus des élèves, un enseignant est compétent. Qu'est-ce qui fait la compétence de l'enseignant? Évidemment, lié à ce qu'on vient de voir. Alors, il nous reste une heure pour faire ce travail. Je propose je propose qu'on discute pas là-dessus. Je vais aussi vous donner des textes à lire ce soir, et puis on prendra du temps demain matin pour refaire le point là-dessus. Mais je voudrais, puisque Colette nous quitte, elle sera pas là demain, donc je voudrais qu'on fasse l'activité qu'elle va vous proposer pour la fin de l'après-midi. Tu as les textes des personnes des...
Bon, effectivement, ça serait passionnant hein, de continuer, mais je pense que vous reprendrez tout ça demain. Sur cette notion de genre, vous n'êtes pas sans connaissances, loin s'en faut, parce que effectivement, ce sont des connaissances qui sont héritées sur les genres, hein, des discours et des textes hérités de notre culture en classe de français, hein, puisque au niveau des connaissances, des compétences, des capacités, il y a effectivement entre les piliers du socle, le pilier 1, le pilier 2, une complète complémentarité. Hein. Pilier 1, je rappelle, maîtrise de la langue, puisque certains d'entre vous enseignent en lycée, sont peut-être moins, ou en lycée professionnel, ou à l'université, ou en UFM, on a vu ce matin. Donc, le socle commun dont on reparlera dans ce séminaire a distingué hein, 7 piliers de compétences, et le premier, la maîtrise de la langue, et le deuxième, la pratique d'une langue étrangère. Effectivement, les deux premiers piliers sont complètement... enfin, le premier communique directement sur le deuxième. Alors, cette phase, effectivement, va nous amener à retourner en classe, mais en focalisant l'attention sur l'acte d'enseigner et celui d'apprendre. Ils ne sont pas indissociables. Dans un premier temps, nous allons vous proposer des résumés de séances de cours, des descriptions de séances qui ont été faites à partir d'observations diverses. Vous voyez que donc les enseignants associés ouvrent leur classe. Il y a toutes les occasions hein, d'observer des classes donc qui servent de matériaux. Et nous avons choisi descriptifs, enfin je cherche mes mots, j'allais dire scénario, 3 descriptifs de séance. Moi je demanderai de les lire, donc on va les distribuer un petit peu à la volée, de surligner ce qui a à voir avec la notion de genre. Tout simplement, de surligner ce qui a trait à la notion de genre. Donc il y a 3 descriptifs différents. On les a choisis parce qu'ils sont assez contrastés, mais tous portent en eux des choses intéressantes en ce qui concerne justement les critères de réussite ou pas d'un cours de langue. Et par rapport à la notion, bien sûr, de compétence. Hein. Bien entendu, un cours réussi sera un cours qui aura permis que se développent chez les élèves des compétences, en gros. Hein. Voilà. Donc, on va vous distribuer ça à la volée, vous surlignez. Ensuite, vous vous mettrez d'accord avec la personne qui est à droite ou à gauche de vous sur les critères qui permettraient de décider si un cours est réussi ou pas, ou ne l'est pas. Voilà, donc la consigne, c'est surligner dans ce descriptif de cours, ce sont tous des cours d'espagnol, hein, j'ai un petit peu fourni là, donc surligner ce qui a à voir avec la notion de genre, et ensuite, une fois que vous aurez mis en commun, qu'est-ce qu'il y a de réussi ou de moins bien réussi dans ce cours, c'est-à-dire on arrive aux critères hein, d'observation de... Est-ce que ma consigne a été claire? On est obligé de réadapter hein, par rapport à ce qui était prévu. Donc là, on se limite à surligner ce qu'il y a à voir dans ce cours avec la notion de genre. Et ensuite, quelles sont les marques de la réussite ou de l'inaboutissement hein, de ce cours? Bien, on va... L'horloge nous rappelle... qu'il va falloir donc faire la synthèse de cette petite ébullition hein, autour de la notion de tâche et autour de la notion pardon de compétence et du dispositif et mise en œuvre qui va amener les élèves effectivement à développer ces compétences. Donc on est allé voir à l'intérieur d'une séance comment ça se passe avec 3 exemples. Alors je demanderai comme ça, Alain a le micro dans la salle, on va faire une petite synthèse texte après texte à partir de des consignes que je vous avais proposées, de surligner ce qui avait rapport à la notion de genre pour le texte restaurant. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite synthèse par rapport à ça ? Vous avez dû surligner des choses. Donc, je peux vous demander tout simplement, qu'est-ce que vous avez surligné ? Hassoun veut bien nous dire ce qu'elle a repéré qui avait rapport avec la notion de genre qui nous a occupé toute la journée.
Alors, on a repéré. L'enseignante décrit... Tu veux que je lise ?
Tu fais comme tu as envie.
Non, mais je ne sais pas. Ce qu'on a repéré, c'est que c'est plutôt... Enfin, on a trouvé des expressions, en rapport avec le genre, plus de la part de la personne qui a écrit ce rapport que de la part de l'enseignant. On pense que, d'après le rapport, l'enseignant a peu de conscience de ce qui est le genre. Par contre, toute l'analyse de l'inspecteur est fondée, enfin une partie, sur le genre. Et voilà, donc on trouve l'enseignante décrit les contours du texte oral à produire, pas de clôture de la rencontre par les formules de politesse attendues. Et ah oui, on a remarqué également que les élèves étaient plus conscients, même si c'était inconsciemment, mais du genre que l'enseignant. Par exemple, à un moment donné, il y a un élève qui demande au professeur « Comment dit-on c'est prêt dans 5 minutes ?» Donc il était bien dans le genre, il était bien conscient du dialogue qu'il devait produire entre un serveur et puis un client. Et donc, il avait bien préparé son discours qui n'était pas du tout qui était tout à fait en accord avec le genre. Le professeur n'a pas su ou voulu lui répondre. Bon. Et après ? Ah oui. Aussi, quand le professeur a voulu faire une évaluation assez négative de la première production, le professeur demande « Vous avez repéré des fautes ?» Mais l'élève répond « Il a proposé 2 plats. » Bon, rien à voir par rapport à la consigne de l'enseignant, mais on voit bien que l'élève est dans le genre. Voilà, mais pas du tout le professeur. Le professeur, il est dans sa correction linguistique.
Oui, Dolores, par rapport à toujours le texte au restaurant. Donc, on va suivre les consignes, oui. Voilà, sur la notion de genre, et ensuite, vous pouvez intervenir également sur ce qui permet le développement de compétences, parce qu'on ne va pas revenir, on va prendre 5 grosses minutes par texte.
Donc, par rapport au genre, on a surligné le choix d'un menu au restaurant, et après, il y a la scène, le rôle, texte oral, dialogue, compréhension à l'oral. Donc, il y a... Et enfin, ce qui est ressorti, c'est une succession d'activités sans réellement s'ancrer dans une activité langagière. On passe de l'oral à l'écrit. Les élèves hésitent, d'ailleurs. Est-ce qu'on écrit ou pas ? Bon, voilà, un peu un saupoudrage. Et puis, cette synthèse qui arrive comme une analyse un peu de besoins à partir de 2 modèles, mais qui est qui part sur un malentendu, la faute. Donc... Voilà. D'un côté, on a un menu, quand même. Est-ce qu'ils ont eu accès à un menu ? Tout ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. On a la séance, mais on n'a pas la séquence. Donc, c'est assez difficile de voir comment ça se passe. On a l'impression qu'il y a trop de choses concentrées sur une séance, qu'avec ça, on arriverait à faire une séquence complète qui mènerait à la tâche finale de ce dialogue au restaurant. Et puis, donc ce fameux dialogue après au restaurant, serveur-client. Donc on est sur un appui écrit avec une interaction orale qui est bien dite semi-improvisée ici.
Moi, ce qui était assez intéressant, et voilà, après je passerai le micro, c'est le développement de compétences des élèves. Là, c'est l'autonomie, finalement, par rapport au... Parce qu'elle leur laisse le cahier, le livre, et à eux de construire à partir des outils qu'on leur a déjà donnés. On ne sait pas quels sont tous ces outils, mais cette autonomie, et ils arrivent à produire quelque chose, quand même. Donc, il y a aussi le repérage et l'écoute, qui sont très importants, puisque le reste de la classe est à l'écoute de ceux qui produisent quelque chose. Et le travail donné à la maison, c'est de la compréhension à l'oral. Donc, quel lien avec le dialogue à produire? Donc, moi, je me suis dit, elle va leur faire travailler le repérage, peut-être s'appuyer sur un mot-clé, alors je ne comprends pas toute la question qu'on me pose, etc. Mais bon, voilà. Donc, c'est ce qui ressort des compétences, on va dire, positives à développer.
Okay. Est-ce que vous en avez trouvé un écho dans les étiquettes, là, que vous avez eues dans les enveloppes? On va donc, oui.
On avait pensé à, pour ce qui concerne le restaurant, guidage indirect de l'enseignant à partir d'un dispositif permettant aux élèves d'être à l'initiative et en constante activité. C'est la phrase qui collait le plus.
Oui, vous êtes d'accord avec ça?
Mais
non, pas tous, d'accord.
On avait.
Oui.
On avait quand même. On a beaucoup critiqué cette pauvre enseignante, mais bon, c'était le but du jeu.
C'est anonymé.
On s'en excuse par avance. Mais j'avais essayé quand même de relire dans l'espoir de trouver quelques éléments positifs quand même à cette séance. Qu'est-ce qui fait que l'objectif va peut-être être atteint, peut-être pas à cette séance-là, mais très prochainement, on va dire. Alors, on lit quand même, le lexique est bien installé. Ils ont étudié un texte en compréhension orale lors de la séance précédente. Bon, alors on ne sait pas comment ils l'ont étudié, mais on va dire que c'est constaté par un rapport. L'expression du goût est en cours d'acquisition, même si je ne sais pas si on s'en sert beaucoup de l'expression du goût dans la commande d'un menu au restaurant. Mais bon, je relève aussi comme élément positif, au bout des 10 minutes, l'enseignante propose une activité de réactivation du lexique de la nourriture à l'aide d'une mise en scène concrète qu'elle conduit elle-même. Donc elle donne un modèle. Bon, il faut lui reconnaître cela. Voilà. Non, mais elle fait tellement très peu de choses qu'on les relève. Mais c'est vrai qu'ils sont lâchés. Voilà. C'était simplement pour lui trouver quelques points positifs. Voilà.
Oui, d'ailleurs, on a choisi des descriptifs qui montrent que les gens sont en route, qui sont en chemin. Parce que, bien sûr, ceux qui observent beaucoup de classe, je le fais dans ma fonction, on voit le meilleur et le pire. Mais bon, on a choisi pour ce séminaire d'être à mi-chemin entre deux cultures pour pouvoir justement agir sur les points déterminants. Et si on parle de genre aujourd'hui, c'est parce que c'est une grande absente. Et donc, effectivement, cette pratique de l'enseignante, je suis bien d'accord, on voit bien que moi, je l'ai bien en tête, cette notion de genre, et qu'elle est en train de se le construire. C'est pour ça que je vous ai demandé de surligner ce qu'il y a à rapport. Alors, on va passer... par rapport aux étiquettes, qui était une activité à part, et tant pis.
Je voulais dire qu'on ne pouvait que la féliciter. Elle a fait tout ce que l'on veut. Elle a fait de la compréhension orale. D'ailleurs, elle en fait à tour de bras. Ni on ne sait pas trop vers quoi elle va, ni pourquoi elle en recolle à la fin, mais elle en fait beaucoup.
Voilà, on est bien
elle
d'accord.
Fait c'est de la cohérence l'interaction, qui manque. Oui. Elle fait tout ce qui est demandé. Bien donc voilà, elle a, mais elle ne le fait peut-être pas dans l'ordre. Et on est bien contraint de constater progression peu repérable, addition de contenu, obstacles non anticipés et début et fin de séance mal gérés. Mais c'est tout. C'est une question de gestion, encore, c'est pas... Et d'esprit, elle va y arriver.
Oui, encore que début et fin de séance mal gérée, je ne suis pas trop d'accord, parce que début de séance, elle fait le lien avec ce qui précède, et la fin de séance, vous avez fort justement souligné l'incohérence effectivement, entre ce qu'elle demande de faire et ce qu'elle vient de faire, mais elle veille à ce que les élèves partent avec quelque chose à faire qui n'est pas, plaqué, qui est de creuser cette compétence si importante qui est la compréhension de l'oral. Hein. Voilà, enfin... Hein, pour mettre des bémols, mais bon. Alors, on va passer rapidement. Oui.
Non, nous, on avait vu aussi, pour la féliciter également. Non, mais c'est vrai, on l'avait vu. Mais une tentative très, très forte de rentrer dans la perspective actionnelle. Mais on a remarqué qu'elle était plutôt dans la cohérence, et c'est pour cela qu'elle n'y arrive pas. Parce qu'elle est dans la cohérence des activités langagières et non pas dans la cohérence du genre. Donc, elle commence par la compréhension de l'oral puisque sa tâche consiste, enfin, pour la réussir, il faut comprendre l'oral, et elle finit par la compréhension de l'oral. Donc, comme elle est dans cette logique-là et pas le genre, même si elle le touche quand même de près, je pense que c'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. Parce qu'elle fait une évaluation formative à la fin qui est vraiment en accord avec le genre, mais après, le travail qu'elle donne à la maison est incohérent et pas en rapport avec cette évaluation formative qui est bien faite, pertinente et positive. Donc, elle est entre les deux, mais
oui,
elle a fait beaucoup d'efforts.
Oui, il faut dire qu'elle suit pas à pas le manuel. Hein, je n'ai pas dit, mais effectivement, les élèves sont renvoyés au manuel, etc. Voilà. Bon, écoutez, c'était un exemple, je crois que vous l'avez bien souligné, c'est entre deux cultures. Alors, l'heure tourne. Simplement sur l'entretien d'embauche. Le titre était laissé en espagnol. Par rapport à la notion de genre, on va peut-être insister là-dessus. Qu'est-ce que vous avez surligné sur ce texte-là? Donc, ça s'appelle en espagnol El mundo laboral, ofertas y demandas. Donc, qu'est-ce que vous aviez souligné qui avait rapport avec cette notion de genre?
Alors, la tâche finale était clairement annoncée. Il s'agissait d'une simulation d'entretien d'embauche. Et il y avait une première tâche qui consistait en la rédaction d'un curriculum vitae, mais qui a été abandonnée par le professeur. Au profit, si je ne me trompe pas, d'un point grammatical sur le tutoiement et le vouvoiement. Ensuite, l'enseignant, avant la tâche, propose une activité lexicale, une association de mots, deux colonnes avec 16 mots à associer en fonction du sens. Et puis, on arrive à l'entretien. Donc, les élèves reçoivent une fiche de rôle. Ils sont séparés. La classe est divisée en deux. Et les chercheurs d'emploi ont un profil. Et puis, il y a aussi les demandeurs d'emploi. On souligne que la classe est disposée en rang d'autobus, et donc les échanges sont pas favorisés. Les élèves sont désignés par l'enseignant pour prendre la parole, et ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils ont à faire. Les chercheurs d'emploi ne comprennent pas toujours qu'ils doivent réagir. Et puis, c'est l'enseignant qui pilote toute l'activité, en fait.
Donc là, on voit bien, hein, sans insister de trop, que ce qui contrarie le développement des compétences, c'est la présence trop grande de l'enseignant, hein, qui joue les médiateurs, qui donne la parole, la non-prise en compte de l'espace, etc. Est-ce que, alors, dans les étiquettes, par rapport à ceux qui ont travaillé ce stage, vous avez vu des indicateurs qui décriraient bien ce qui est observé là? Oui,
oui, on avait guidage serré, élève exécutant, place dominante de l'enseignant, participation des élèves épisodiques, trop d'explications. C'est vrai que par exemple sur le tutoiement vouvoiement, on a eu l'impression qu'il y avait un dérapage un petit peu, voilà, un manque de lâcher prise sur il faut absolument que j'aille au bout de mon cours sur tutoiement et vouvoiement, même si dans le genre, ça n'avait peut-être pas lieu d'être. Voilà.
On va passer très vite, parce que le temps tourne, vous en allez. Donc le dernier, c'était vol, violence et mendicité.
Bon, oui, Lénie.
On avait donc une autre proposition. Est-ce que par rapport à la notion de genre, vous avez surligné des choses ?
Alors nous, ce qu'on a surligné au niveau du genre correspond à ce qu'on a surligné également au niveau du développement des compétences. Il y a, on trouve qu'il y a, il y a vraiment un lien entre les deux. Les élèves en tâche finale devront rédiger un article de presse. Là, il s'agit d'une séance d'activité orale, mais malgré tout ce qu'ils travaillent, ça va dans le sens de l'article de presse. Ils travaillent sur une bande dessinée, mais ils travaillent sur des vignettes différentes, et donc ils doivent aller à la rencontre de l'autre et rechercher à la recherche d'informations. Donc le journaliste, c'est ça, le travail qu'il a à faire aussi, qu'il aura à faire avant de rédiger.
On vous entendait.
Ça va mieux comme ça?
C'est bon.
C'est pareil. Donc les élèves vont à la rencontre de l'autre et à la recherche de l'information comme le journaliste devra le faire pour ensuite rédiger son article. Il y a mémorisation de termes nouveaux, bon, il y a un travail de vocabulaire. Ils ont à travailler sur une description, or le journaliste aura à décrire une situation. La cohérence de l'ensemble du texte, le groupe arrive peu à peu à découvrir le lien entre les différentes composantes de l'histoire. Il y a une histoire, il y a un lien à trouver, un ordre à mettre pour les différentes vignettes, et ça dans l'article c'est ce qu'on retrouvera également. Ils travaillent énormément la langue avec autocorrection, enrichissement mutuel, etc. Donc ça c'est dans les compétences qu'ils arrivent à acquérir. Et à la fin, ils jouent une scénette, donc sans leurs notes, donc ils doivent mémoriser le vocabulaire, et puis ils doivent faire un commentaire au discours indirect, ce que devra faire également le journaliste. Donc ça va bien tout dans le sens du genre. Enfin, nous, on a trouvé.
Oui, effectivement, on l'a choisi parce que dans l'ensemble, on voulait donner un exemple d'une cohérence à l'ensemble de critères qu'on veut mettre en avant. Alors, avant que tout le monde soit parti, je vais simplement, en quelques minutes, vous dire... vous dire que, effectivement, dans mon travail, je vois beaucoup... oui, je veux bien. Donc, je vois beaucoup de cours. Et au bout de quelques mois de ce travail-là, j'ai eu besoin d'une boussole. Donc, je me suis fait un ensemble d'indicateurs pour un cours de langue réussi. Et comme je voyais aussi beaucoup de choses pas réussies, j'ai mis en contrepoint les contre-indications ou les indicateurs qui me semblaient relever d'une pratique ancienne. Hein. Et selon l'entretien que j'ai avec l'enseignant, s'il est capable d'entendre ce que je lui dis, je sors cette fiche, et avec lui, je lui demande de se positionner sur cette fiche, de dire voilà, par rapport à tel indicateur, ces indicateurs sont, un, vous l'aurez sous les yeux, finalité et orientation de l'activité, progression, genre de texte et de discours visé, activité langagière, guidage de l'activité et autonomie, format d'interaction, évaluation, organisation de la classe. Par rapport à ces critères, je lui demande de se positionner, puis moi je dis ce que j'en pense également par rapport donc à cette boussole que je me suis construite, mais sur la base bien sûr d'un travail au plus près des indicateurs du cadre européen, d'une pratique partagée d'outils produits par les chercheurs, notamment de l'Université de Louvain. Vous aurez voilà. Alors donc, les bandelettes que j'avais préparées, en fait, c'est un dispositif de travail que j'utilise dans des formations, de faire assembler les bandelettes, ensuite faire nommer les critères, faire en sorte que les gens s'approprient les indicateurs de réussite et avec leurs contre-indications, on va dire. Voilà, tout cela n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais arrive sur la base d'une pratique dont on peut parler. ce que je vous ai proposé comme texte à lire, ce sont bien sûr des synthèses faites à partir de rapports d'inspection. Un rapport d'inspection, c'est autre chose. Bien sûr, on n'a pas le droit de le mettre en commun, et heureusement, hein, ça reste propre à chaque personne, entre l'inspecteur et la personne. Cependant, moi, quand je fais un rapport d'inspection, je vise à ce que celui qui va le lire apprenne quelque chose. C'est pour ça que le style que j'adopte est un style un petit peu pédagogique. Disons que je me dis, il fait court, je lui ai demandé de me produire un plan de sa séance et de sa séquence. Ça lui demande déjà de beaucoup réfléchir. Ensuite, on en discute. Et ensuite, quand il reçoit le rapport, il peut relire ça dans un schéma qui, dont l'objectif est la cohérence. Donc, quand j'ai établi le rapport, c'est sur la base d'un consensus qu'on a eu. Hein, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, mais il va faire que relire ce qu'on a discuté ensemble. Donc, je pense que on est dans un processus d'évaluation formative jusqu'au bout. Et bien sûr, les inspecteurs ici ne me contrediront pas en disant que nous concevons l'inspection comme un accompagnement, hein, comme une formation au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire co-construite avec la personne intéressée qui, la plupart du temps, est ravie de nous voir arriver et partir parce qu'il a appris quelque chose. Voilà, donc moi je trouve cette aventure vraiment intéressante, et bon, vu que je suis partie du groupe INRP pour arriver à l'inspection, je fais le lien, et c'est vrai que je mets au service de mon travail nouveau ce que j'ai appris aussi dans l'observation de la recherche. Voilà. Alors je vais peut-être laisser la parole à Alain qui a des tas de choses à vous distribuer, dont un tableau des ingrédients des situations d'enseignement-apprentissage qui favorisent la construction de compétences. Vous voyez que la boucle est bouclée, on est passé par les langues et là on termine par des critères qui dépassent la classe de langue pour englober les compétences que doivent se construire les élèves dans le cursus scolaire. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite demain de bien poursuivre votre travail. Je vais aller à un autre séminaire où, là, je vais mettre les pieds sous la table. avec quelques apports intéressants, je pense, aussi. Mais je suivrai vos travaux de plus près parce que, ensuite, les journées de l'inspection en l'interlangue, en espagnol, seront nourries du travail que vous avez fait ici. Rien ne se perd, tout se recycle. Voilà.